À l'autre extrémité de la ville, nous allons voir ce joyau qu'est le Ryōan-ji, le temple zen par excellence. Je ne tenterai pas ici de décrire ce qui le fut tant de fois. Le Ryōan-ji est le sommet de l'esthétique Shibui, que l'on pourrait traduire par « âpre ». Cette âpreté aspire à l'invisible, au rugueux, à ce qui s'insère dans la nature sans sauter aux yeux. Porter un manteau de kimono marron, manger un kaki amer, boire du matcha dans un bol dépourvu de bords lisses, vieillir en devenant aussi ridé que de l'écorce, ignorer le clinquant et le brillant, tant dans l'expression que dans les actes, c'est suivre la voie du Shibui, le comble du bon goût. Méditer sur le jardin du Ryōan-ji, c'est explorer une hypothèse de vie que l'on ne retiendra peut-être pas, mais dont la simple éventualité nettoie l'âme. On pourrait en effet se dépouiller jusqu'à atteindre l'âpreté la plus rare, celle de l'esprit. Ce vide, cette caisse de résonance idéale pour ressentir enfin le monde tel qu'il est, sans l'encombrer de notre tumulte intérieur dans lequel nous avons la vanité de voir de la pensée. Il faudrait ratisser notre vide, comme ce jardin. Pep a une grande qualité d'admiration. Elle s'assit au bord de la mer de gravier, contemple et se tait. J'apprécie qu'aucun commentaire ne soit échangé. Il y a moins de visites scolaires à la tombée du soir, mais les quelques classes que nous croisons gardent elles aussi le silence. Une amie allemande m'a confié avoir pleuré en découvrant le Ryōan-ji. « C'était juste parfait », a-t-elle ajouté. Nous rentrons à pied. C'est loin, c'est bien. Marcher à travers le Kyoto crépusculaire n'a rien d'un embarras. La circulation est modérée, personne n'a l'air de vouloir renverser un piéton qui vient de Paris s'en émerveiller. Pep se sert de son iPhone pour retrouver le chemin de la Ryokan. C'est une ville de taille moyenne, ce qui lui valut de figurer sur la liste américaine des villes sur lesquelles expérimenter les premières bombes atomiques en août 1945. Le nom de Kyoto fut rayé de cette théorie pour le motif que le voyage de noces du secrétaire à la guerre s'y était accompli et qu'il avait pu constater la splendeur des lieux. On félicite M. Stimson de ne pas avoir passé sa lune de miel à Acapulco. À l'auberge, on nous sert un dîner dans la chambre de mon ami. Festin zen est-il une contradiction dans les termes? Bouillon d'orchidées, cassolette de légumes des montagnes, poisson cru et cuit, il y a tant de plats que nous ne savons où donner de la baguette. Il a fait très lourd l'après-midi, un orage commence. Par les fenêtres ouvertes, nous respirons l'odeur de la pluie qui assaisonne ce repas comme il le mérite. Je prends congé de Pep pour aller dormir. Couché sur le futon, j'écoute l'averse. J'éprouve une volupté égale à ma fatigue et je sombre. Au milieu de la nuit, Pep déboule dans ma chambre. J'entends du bruit. C'est le tonnerre, endors-toi. Non, il y a des voix. Pep a la phobie du bruit nocturne. Mal réveillé, j'arrive dans la chambre de mon ami. Je n'entends rien. Remets-tu mon témoignage en cause? S'insurge-t-elle. Ah non, bien sûr. Accompagne-moi à la réception. Emballés dans nos yukata, nous descendons dans le hall où le tenancier joue le rôle de veilleur de nuit. Il est 1h du matin. L'homme reconnaît celle qu'il accusait d'abriter des bed bugs et fronce les sourcils. Il n'a encore rien vu. Je traduis les propos de Pep le plus diplomatiquement possible. Mon ami entend du bruit dans sa chambre. C'est une conversation qui a lieu à proximité. Je ne suis pas responsable du comportement du voisinage. Mon ami dit que cela vient de votre établissement. Mes hôtes sont tous endormis. Mon ami voudrait changer de chambre. À chacune de mes paroles, le tenancier réagit par un houle-corps. Il ne sait pas combien j'atténue la charge de Pep, dont le moindre propos consiste en une déclaration de guerre. Bon sang ne saurait mentir. Je me livre à un exercice de haute diplomatie. À bout de nerfs, l'homme nous conduit à une chambre libre. Pendant le trajet, Pep me dit qu'elle m'a à l'œil et à l'oreille. À l'évidence, ce que tu traduis à ce type n'est pas ce que je lui jette à la figure. Le japonais est une langue autre, je réponds suavement. Par exemple, espèce de margoulin se traduit par l'équivalent de négociateur étonnant. C'est ça, prends-moi pour une idiote. La nouvelle chambre se révèle moins bien que l'initiale. Il se fous de moi. Jamais je ne logerai dans ce taudis. » Ce que je traduis ainsi. Mon ami trouvait plus de charme à la chambre que vous lui aviez attribuée. Pourriez-vous, je vous prie, nous en montrer une autre ? La scène se reproduit encore deux fois. Le tenancier déclare alors qu'il n'y a plus de chambre libre. « D'accord, » dit Pep. « On s'habille, on prend nos affaires et on change d'hôtel. »« Il est 1h30 du matin, » je proteste. « Et alors ?» Je saute dans mes vêtements et nous voici dans la rue, en pleine nuit à Kyoto. L'expérience ne manque pas d'intérêt. Nous croisons quelques geishas furtives qui ne font pas dans le folklore. Nous repérons des hôtels où l'on nous accueille avec stupéfaction. Dans un pays où les manières priment, on nous dit que ce n'est pas une heure pour s'enregistrer. Notre insistance renforce leur refus. 2h du matin, la pluie redouble. Je ne me suis jamais sentie aussi misérable. Combien de temps allons-nous errer ainsi dans le Kyoto nocturne à nous faire rejeter à chaque hôtel ? Pep finit par dire « Bon, c'est mort. Revenons à la ryokan. » Je n'ose pas crier victoire. Quand nous arrivons, le tenancier dit d'un ton sarcastique « Vous n'avez donc pas trouvé une chambre ailleurs ? » Dis-lui d'aller se « Nous sommes heureuses de vous revoir, cher monsieur. » J'accompagne mon amie dans sa chambre initiale. Elle tend l'oreille. Le bruit a disparu. Couchons-nous et dormons. Je m'allonge sur mon tatami. Il est 2h30 du matin. Il me reste 1h30 pour dormir. Je me retourne, épuisé. L'énervement entrave le sommeil. Au Japon, le soleil se lève plutôt qu'ailleurs. Je finis par l'imiter. Le thé trop fort efface la fatigue. Le temps d'écrire et le souvenir de cette nuit étrange s'éloignent. Quand je rejoins Pep pour le petit déjeuner nippon, je m'aperçois que la jeune serveuse lui parle désormais avec une admiration appuyée. Elle voudrait lui porter ses aliments à la bouche comme une geisha. Je traduis des périphrases avant de comprendre la situation. Le tenancier a dû dire à ses employés des horreurs à notre sujet, et surtout sur celle qui commandait. Rien d'absurde à supputer que cet homme doit être très impopulaire auprès de celle qu'il tient pour des servantes. Ce devait être la première fois que quelqu'un s'adressait à lui avec insolence. Si l'on ajoute que Pep est une femme étrangère qui semble âgée de 30 ans à peine, on peut imaginer la fureur du despote. D'où la jubilation des employés. Ce que j'explique à mon ami qui s'en réjouit en commentant « Bien fait, j'en rajouterai une couche quand je le reverrai ». L'événement ne devait plus se produire qu'une seule fois. Sans doute avait-il demandé à être averti chaque fois que les deux Françaises approcheraient de la réception car nous n'avons plus eu affaire à lui, mais à des jeunes femmes idolâtres de Pep.